Laurent, on va parler des sorties, oui, bien sûr. On va commencer par Pour Sama, un doc syrien et britannique de Wad El-Kateb et Edward Watts. Wad El-Kateb est une jeune femme syrienne qui vit à Alep. Lorsque la guerre éclate en 2011, sous les bombardements, elle filme au péril de sa vie et au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d'Alep. Wad et son mari, médecin, sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté du pays. À la fois journal intime et témoignage capital d'un pays en chaos total. Le film, Laurent, d'ailleurs, a reçu l'œil d'or du meilleur documentaire à Cannes.
Oui, alors, si on est partant pour dépasser la musique absolument insupportable et omniprésente, l'impression télévisuelle, parce qu'à l'origine, ils sont plutôt dans un travail télévisuel, et également, finalement, un peu l'absence réellement d'un projet documentaire, bon, si on dépasse ça, c'est pas rien, mais il faut le dépasser, parce que l'essentiel du film, c'est autre chose, c'est effectivement l'autoportrait en quelque sorte de cette mère et de ce père décidés coûte que coûte à rester là avec leur enfant dans ce chaos absolument infernal, dans cet enfer là, et en montrant à la fois toute la terreur, l'absurdité, parfois des petits moments de grâce comme cet enfant qui va se réveiller malgré un accouchement infernal. Voilà, il y a cette capacité qu'ils ont à capter tout cela qui est effectivement extrêmement précieux. Alors dépassons un peu la forme, dépassons l'enveloppe et gardons son contenu extrêmement précieux.
Joker de Todd Phillips. Le film se focalise sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d'Arthur Fleck, incarné par Joaquin Phoenix. Cet homme qui vit avec sa vieille mère, travaille comme clown misérablement, est atteint de lésions cérébrales qui provoquent des fous rires incontrôlés à des moments, on va dire, inopportuns. Et cette question qui parcourt le film, d'où vient le mal qui lui donnera cette nouvelle identité de Joker? À partir de là, toutes les suppositions sont possibles et les pistes nombreuses. La société qui veut qu'il se comporte comme s'il n'était rien. D'ailleurs, Arthur Fleck se demande s'il existe vraiment. Une société qui décide ce qui est bien et mal, ce qui est drôle et ne l'est pas, alors que lui se rêve en vedette de stand-up pour être finalement comme les autres. Récemment, le site IndieWire recommandait une liste de films à voir avant celui-là et parmi eux. En même temps, les clins d'œil dans le film sont tellement énormes. Taxi Driver, La Valse des Pantins ou Orange Mécanique, rien que ça. Mais combien pèse Joker à côté de ses sacrées références? Pas très lourd, tant les raisons de cette folie sont empilées sans véritable analyse. La société malade ou son enfance meurtrie au choix. Pas loin de penser comme ce critique du New York Times qui écrit un exercice de style fumeux mêlant des thèmes réchauffés et une philosophie de bazar. Bref, un préquel déguisé en film d'auteur. Il n'y en a qu'un d'auteur dans ce film, c'est Joaquin Phoenix qui met en scène sa performance et de façon assez magistrale et vertigineuse. Et c'est le contraire qui aurait dû se passer à la Mostra de Venise. Oui, Phoenix aurait dû avoir le prix d'interprétation et Martin Eden le Lion d'Or, qui donne lui et de façon puissante une vision très noire de l'époque, de sa capacité justement à rabaisser et humilier les individus, comme tente maladroitement de le décrire ce film Joker. Baptiste Léger n'est pas du tout d'accord.
Non. Je trouve que, évidemment, la prestation de Joaquin Phoenix est absolument remarquable. Je trouve, au contraire, recontextualiser-le aussi dans le film de genre, dans le film de super-héros, dont c'est à peu près l'antithèse absolue. Oui, évidemment, les clins d'œil à Scorsese sont lourds, mais je trouve que Todd Phillips, qui vient quand même de la comédie, à se demander si le Ciao Pantin à la française qui concerne les acteurs ne touche pas les cinéastes de comédie aux États-Unis. Ouais. Non, je trouve que c'est un film absolument passionnant, qui propose un vrai regard sur le genre, sur la société d'aujourd'hui, très, très large. Enfin, pour moi, c'est un des grands films de l'année.
Pour moi, c'est Martin Eden.
Mais on peut aimer les deux.
Il y a débat.
Non, on va tout péter. C'est un doc du Polonais Lech Kowalski, chronique pendant 9 mois en 2017 de la lutte des ouvriers de l'équipementier automobile menaçant de faire péter leur usine à la souterraine dans la Creuse. Une œuvre en immersion et en même temps une réflexion sur le poids de la révolution contre l'indifférence d'un système.
On a pu découvrir ce très stimulant documentaire à la quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année. Et puis, certains l'ont peut-être vu, il faut le dire, sur Arte, en juin dernier. Il sort sur grand écran, c'est justice, parce que c'est un très très beau travail sur, effectivement, une lutte qui a pas mal inspiré, d'ailleurs, Monsieur Stéphane Brisé pour ses films documentaires, mais là, pour ses films de fiction, pardonnez-moi, mais là, c'est le retour du réel, avec notamment cette insistance très très intéressante sur la parole de ces ouvriers. Ils reprennent la parole comme on reprend le travail, comme comme on refait les choses, on revisite la situation face au gouvernement, face aux repreneurs qui sont effectivement là, incompétents et inconséquents. Ça donne une envie de se battre incroyable. Le titre est là pour ça. Et je trouve que c'est, si le cinéma documentaire a une valeur, c'est aussi cette façon de à la fois regarder le réel et de nous donner l'envie ou l'envie à nouveau de se battre.
Ça s'appelle On va tout péter. Oui. Papicha, premier film signé Mounia Medour, Alger, années 90. Nejma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. À la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la cité avec ses meilleurs amis pour rejoindre les boîtes de nuit où elle vend ses créations aux papichas, ces jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nejma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits. Cette histoire, Mounia Medour l'a vécue, étudiante elle aussi à Alger pendant cette décennie noire. Le conflit qui a opposé le gouvernement à divers groupes islamiques à partir de 91, elle a ajouté donc ces éléments de mode comme résistance au foulard, donc hymne à l'émancipation des femmes contre l'intégrisme religieux. Sujet acquis d'avance à nos consciences. D'ailleurs, le problème du film n'est pas le sujet, mais son traitement. En termes de mise en scène, d'abord, ce parti pris de cadrage au plus près des visages et de montage, 50 plans à la minute, j'exagère à peine, absolument saoulant, même s'il est censé être un regard, comme elle dit, immersif et organique. Ça, on a bien compris l'idée. Des gros plans, mais peu de recul sur la situation politique. Ça encore, ça passe puisque le point de vue est sur les filles. Mais ce qui ne passe pas, c'est le soulignage des affects, le soulignement des affects. Pourquoi en rajouter dans une situation déjà bien pesante, comme ce plan interminable sur l'héroïne après un acte criminel? On ne précisera pas lequel. Les intentions sont très louables, les actrices convaincantes, mais pas l'ensemble très attendu dans son déroulement.
Oui, il faut juste peut-être dire le nom de l'actrice principale qui est Lina Koudry, oui. Qui est formidable, oui. Voilà, qui finalement le film repose uniquement, ouais, sur ses fragiles mais fortes épaules, parce que elle donne effectivement le tempo du film, cette espèce de bulldozer au féminin, mais de là à lui faire faire des vêtements tout blancs pour lutter contre l'intégrisme radical tout noir, les ficelles sont un peu grosses.
Nos défaites de Jean-Gabriel Périot dresse un portrait de nos rapports à la politique par un jeu de réinterprétation par des lycéens d'extraits issus du cinéma de post 68, très éloigné de leurs préoccupations. Un film réalisé avec la classe de première option cinéma du lycée Romain Rolland d'Ivry-sur-Seine. Les élèves sont devant et derrière la caméra. Alors,
oui, c'est la classe de quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui est Sarah Logereau, qui fait beaucoup pour œuvrer pour la rencontre, le pont entre le système scolaire et le cinéma. Tant mieux. Là, on a quelques petites réserves parce qu'il y a beaucoup de films dans ce film. Il y a ce que vous disiez très justement, qui sont la reprise de séquences importantes du film militant des années 68, et notamment cette formidable reprise du film d'Hervé Leroux qui s'appelle précisément La reprise du, oui, travail aux usines ouvertes. Et il y a une jeune fille qui relit le texte d'une des grévistes, qui est étonnante de naturel. On est absolument scotché. Alors le problème, c'est qu'effectivement après, on s'aperçoit que cette jeune femme certainement ne comprend pas la moitié de ce qu'elle dit, parce qu'elle est par exemple incapable de dire ce qu'est un syndicat. Donc ce parallèle là marche moins bien. Il faut avouer que ils ont aussi en face de ces jeunes un documentariste qui osent leur poser ce genre de questions. Est-ce que tu crois que les politiciens font toujours tout ce qu'il faut pour que tout soit pour le mieux pour tout le monde? Si quelqu'un peut répondre non ou oui à cette question, c'est un immense crétin. Comment est-ce qu'on peut après vouloir montrer la jeunesse en lui posant des questions aussi stupides? Ça, c'est quand même un léger problème. Le film est sauvé par toute la séquence finale qui revient sur une lutte faite par ces jeunes femmes et ces jeunes hommes et qui montre qu'effectivement, bon, au-delà de leur inculture totale politique, ils peuvent faire bouger les lignes.
La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti. Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile, profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple de la famine. Le roi décide alors d'envahir la plaine où habitent les hommes avec l'aide de son armée et d'un magicien. Il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio, mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes. Ce film d'animation, inspiré du livre, du roman pour enfants écrit par Buzzati en 1945. On se sent un peu seul au monde, Laurent, de ne pas trop avoir adhéré à ce projet pourtant ambitieux.
Oui, ben l'invasion nous a paru bien longue et bien ennuyeuse, hein, je crois quand même, c'est ça qu'il faut dire. Non mais c'est vrai, c'est vraiment les parades militaires, tout ça, enfin des ours, alors ça peut être jugé comme très beau, mais c'est une esthétique assez simple. Franchement, ça ne tient pas pour moi la route avec tant de chefs-d'œuvre d'animation qu'on a vu récemment.
On n'aime pas grand-chose cette semaine, hein. Il faudrait aller voir Alice et le maire, et puis surtout ceux qui travaillent aussi.
Hein. Oui, bien sûr, évidemment. Les, les deux films, ouais. Oui, Chambre de 112.
Sœurs d'armes de Caroline Fourest, Amira Kazar, Camilla Jordana, Esther Garel, deux jeunes françaises, rejoignent une brigade internationale pour se battre aux côtés des combattantes kurdes. On avait souffert déjà aux Filles du Soleil, et que vaut celui-là de Caroline Fourest?
Ben, dans le précédent numéro de Marianne, Caroline Fourest consacre la page hebdomadaire qu'elle a dans cet hebdomadaire, qui est intitulée Esprit Libre, au film d'une certaine Fourest Caroline, pour dire tout le bien qu'elle en pense et qu'elle lui a fait. Si, lui permettant, je cite, ce film, d'avoir dirigé une armée et un convoi de 47 véhicules blindés aux vitres criblées de balles par Daesh. Bon, ouais, voilà, c'est Caro qui va en guerre, c'est le syndrome BHL, mais seulement n'est pas Malraux qui veut, hein, ça c'est clair. Alors, à force de multiplier les clichés, notamment sur ces deux jeunes françaises à qui qu'on prive de téléphone portable dès leur arrivée dans la dite brigade féminine et qui n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leur portable. Forcément, elles sont des femmes, elles ont besoin d'un portable.
On a très peu de temps juste pour être. Baptiste Ligier, juste un tout petit mot, vraiment tout petit mot à dire.
Vous voyez les films canon des années 80 avec Chuck Norris, c'est l'équivalent féminin. À voir avec quelques verres dans le nez, vous serez très content.
Vite, voilà. De cadeaux.
Oui, de cadeaux. Les étendues imaginaires pour vous, oui. Marie Modiano, c'est un film qu'on a beaucoup aimé, qui se passe à Singapour, qui est un vrai faux film polar glauque et blafard à souhait sur l'amnésie notamment et la solitude. C'est chez Epicentre. Et puis pour vous, Baptiste Ligier, entre cinéma et littérature, vous y êtes, on y est avec Marc Allégret et André Gide chez Dorian.
Lire sorti la semaine dernière, le 7 décembre à Beaubourg, vous serez Marie Modiano avec Peter Van Poel, spectacle Songs from the Other Side, et sinon Martin Eden de Pietro Marcello sort mercredi prochain. Au revoir, on lui laisse le générique.